Après les informations qui nous ont été communiquées, en fait, intensifier davantage la relation avec les régions plutôt que de prolonger les relations bilatérales telles qu'elles ont été conçues au lendemain des indépendances. Alors, le choix du Cameroun, a été considéré comme un pays pivot en Afrique centrale, considéré comme la première économie d'Afrique centrale et un pays qui est perçu en tout cas comme un point d'ancrage et surtout un pôle politique assez fort, assez puissant pour l'Afrique centrale. Par ailleurs, il faut dire que le Cameroun engrange, additionne un certain nombre de critères qui correspondent à la projection que la France fait aujourd'hui de sa politique en Afrique. Et ce ne sont pas simplement évidemment des paramètres positifs, hein, puisqu'il s'agit des questions sécuritaires avec la lutte contre le terrorisme, la présence de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit également de la question économique. Le Cameroun est considéré comme un partenaire économique majeur. Il y a également cette rébellion qui est plutôt une guerre civile, hein, qu'on observe dans les régions anglophones du Cameroun. Et puis, il y a la question politique qui reste sensible dans un pays comme le Cameroun, avec un président nonagénaire. Tous les regards sont tournés, évidemment, vers la succession de Paul Biya. Donc, autant de critères, autant d'éléments, autant de paramètres qui ont conduit au choix du Cameroun comme le pays pivot, en tout cas le pays sur lequel cette tournée d'Emmanuel Macron devrait s'appuyer. Mm-hmm. Et puis, il y a le Bénin. Alors, le Bénin apparaît évidemment comme une sorte d'anomalie, quand on sait que le Bénin a opéré quand même un virage absolument spectaculaire, passant d'un modèle de démocratie à une forme de restauration autocratique aujourd'hui. Mais il y a, je dirais, une sorte d'opportunité politique et historique qui se présente pour le Bénin, parce que le Bénin est aujourd'hui aussi dans l'œil du cyclone, hein, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, puisque le pays est aujourd'hui sous la menace d'un mouvement djihadiste dans sa partie septentrionale, à côté du Togo aussi, qui subit les mêmes menaces et les mêmes coups de boutoir de ce terrorisme. Et puis surtout, il y a en toile de fond le départ de Barkhane du Mali et la réarticulation, le repositionnement de cette force dans la sous-région ouest-africaine, essentiellement au Niger, avec une extension vers le Niger et le Togo également, peut-être d'ailleurs vers la Côte d'Ivoire aussi. Enfin, il y a la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau illustre justement la démarche régionale de la France, puisque en rencontrant le président bissau-guinéen devenu président de l'exercice de la CEDEAO, la France voudrait, disons, sceller une forme d'alliance régionale, une forme d'alliance avec la région, davantage que multiplier, je dirais, des relations bilatérales avec l'ensemble des pays de cette sous-région.
D'accord. Alors, Luc Mayo, quand le président Macron dit qu'il va aborder les non-dits et les incompréhensions liées à la colonisation, la colonisation est un sujet assez important et sensible au Cameroun, n'est-ce pas? Certains partis politiques et associations appelaient carrément la France à reconnaître ses crimes coloniaux au Cameroun, notamment la répression des militants pro-UPC. Cette visite a-t-elle fait bouger les lignes ou peut-elle faire bouger les lignes dans ce sens?
Non, je crois que du fait de ce que l'appelait Francis, c'est-à-dire de l'importance stratégique du Cameroun en Afrique centrale, il y a certains sujets sur lesquels les chefs d'État n'ont pas voulu s'entretenir publiquement, et je crois que c'est à tort qu'ils l'ont fait, parce que la question notamment de l'empoisonnement de Félix Mounier, pour ne parler que de ce cas sur lequel il n'y a pas de débat, on sait qu'il a été empoisonné par un agent secret français en Suisse, l'assassinat de Robin Oumniobé et la répression qui s'en est suivie jusqu'à la dislocation de l'UPC qui est aujourd'hui devenue comme qui s'est métastasée. En réalité, on ne sait plus quel est l'UPC historique et quel est l'UPC qui ne peut pas se revendiquer de ce courant-là. Toutes ces choses-là auraient dû être dans le débat. Or, je crois que la lutte contre le terrorisme, la question du franc CFA et les enjeux économiques liés à la crise, à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ont fait que l'on apparaît au plus précis. On a essayé de régler les problèmes les plus urgents et on a remis à plus tard ces questions mémorielles sur lesquelles on promet de s'engager un intellectuels comme Achille Bembe pour travailler sur le registre
qui a aussi fait le déplacement d'ailleurs avec
qui a fait le déplacement de Yaoundé. Donc tout cela va être utile, mais je crois qu'on pouvait déjà faire l'économie de renvoyer les gens au résultat de ce travail en reconnaissant les crimes les plus pertinents sur lesquels il n'y a plus de doute, ceux par exemple de l'assassinat de Félix Mounier et de Roumain Oumniobé, et donc d'avancer maintenant dans les réparations et les accompagnements qui peuvent s'en suivre.
Alors, Aloïse, les relations entre la France et le Rwanda, par exemple, étaient très mauvaises après le génocide, jusqu'à, en tout cas, la publication du rapport du Clerc l'an dernier. Aujourd'hui, on note une certaine détente entre Paris et Kigali. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda peut être un cas d'école sur comment aller de l'avant pour ce qui est des relations entre l'Afrique et les pays africains, en tout cas certains pays africains?
Tout d'abord, il y a quelques leçons à tirer à partir des derniers développements dans les relations entre la France et le Rwanda. D'abord, à la suite de plusieurs années de tensions à cause de l'implication de la France dans les génocides effectués au Rwanda et les soutiens des génocidaires, le président Emmanuel Macron a pris le courage d'ouvrir les archives de cette période trouble des années 90-94 et sur base du rapport du Clerc Kigali et Paris ont décidé de regarder de l'avant pour harmoniser leurs relations diplomatiques et de coopération. Je crois que l'idée de réouvertir des archives pendant la période de troubles coloniales est aussi revenue lors de sa visite au Cameroun. Et en deuxième leçon, vous savez, Paris vient toujours en Afrique avec un agenda chargé de ses propres intérêts stratégiques, notamment l'accès aux ressources, le positionnement sur la scène internationale. Mais Kigali a réussi à négocier un rapport de partenariat d'égal à égal avec une France habituée à avoir un rapport de condescendance avec ses partenaires africains. Bon, il y a aussi toutes les questions liées à la gestion de la sécurité nationale. Jusqu'à aujourd'hui, Kigali assure sa propre sécurité et réussit même à exporter son expertise en matière de sécurité à d'autres pays, notamment à la porte maintien de la paix. À côté, donc, des pays africains qui sous-traitent leur sécurité par des accords militaires, des bases militaires installées en Afrique.
J'allais demander justement, Francis, l'image de la France en Afrique a pris un sacré coup depuis quelques années, surtout avec la crise sécuritaire au Sahel. Est-ce que la France est plutôt victime de son passé colonial, puisque quand même, elle n'est pas la seule puissance à être présente sur le continent aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a d'autres facteurs?
Vous avez raison de rappeler que la France n'est pas la seule puissance présente sur le sol africain aujourd'hui, parce qu'on oublie par exemple la forte présence des États-Unis en Afrique, avec des opérations comme AFRICOM. Il y a toujours l'ombre de l'opération RECAMP qui est toujours présente en Afrique, et les services de renseignement américains sont extrêmement actifs sur le continent africain. Donc en termes de puissance militaire, la France n'est même pas la première présence militaire en Afrique. On peut également parler de la Chine, qui est des géants chinois, qui est aujourd'hui le premier marché.
Mais avec une présence plus discrète quand même, quoi qu'on dise.
Beaucoup plus discrète.
Sur le plan militaire en tout cas.
C'est tellement plus efficace, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'aujourd'hui, en termes de volume de vente d'armes sur le continent africain, la Chine est le premier fournisseur d'armes pour le continent, devant la Russie d'ailleurs, et les États-Unis ne terminent qu'en troisième position. Voilà. Donc la France, effectivement, on pourrait le dire, est victime de son passé colonial, parce que ce qui est derrière, je dirais, ce qu'on appelle le sentiment anti-français, il y a surtout ce que j'appelle les comptes mal soldés de la colonisation. Parce qu'en fait, toutes les manifestations contre la France aujourd'hui, qu'on observe, vous l'avez dit, notamment dans les pays du Sahel, au Mali par exemple, ces manifestations sont alimentées par des récriminations anciennes, par des rancœurs anciennes. Donc ces comptes mal soldés de la colonisation. Et c'est comme si finalement il y avait plusieurs rendez-vous manqués entre la France ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies pour résoudre complètement, je dirais, pour évacuer de ces relations cette part d'affect, cette charge affective émotionnelle qui pèse toujours sur ces relations. Donc il y a à la fois il y a à la fois des récriminations objectives, mais il y a une grande part aussi de charges passionnelles dans cette tension que nous avons aujourd'hui entre certaines opinions africaines et la France, qui est d'ailleurs la France qui est une abstraction, parce qu'il faut faire la distinction évidemment de la France officielle et la France en tant que nation ordinaire.
Absolument. Alors, cette notion justement de diplomatie culturelle qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai, mais qui prend une nouvelle dimension dans la politique africaine de Macron, avec notamment la restitution des objets d'art volés durant la colonisation, symbolique ou historique pour vous? Est-ce que ça peut faire une différence?
Un mélange des deux, c'est-à-dire sur le plan du symbole, il est important de montrer que l'on ne va pas conserver de façon indue des biens qui appartiennent à un autre peuple. Et puis de l'autre côté, sur le plan historique, c'est vrai qu'il faut marquer cela d'une pierre blanche. C'est après le discours de Ouagadougou que l'on a commencé à véritablement envisager un retour des œuvres d'art africaines vers les pays où ils avaient été pillés. Mais je crois que tout cela arrive un peu tard, parce que les revendications sur la fermeture des bases militaires, sur la question du franc CFA, qui reste encore en vigueur plus de 70 ans après sa création, tout cela crée des zones de friction qui n'ont toujours pas été réparées. Et le fait d'avancer sur le plan culturel permet de montrer qu'il n'y a pas de blocage, la France ne fait pas la sourde oreille par rapport aux réclamations, mais ça reste quand même très symbolique. De l'autre côté, quand on parle des pays francophones, encore une fois, les pays de la zone CFA, il y a ce sentiment d'avoir été abandonné à plusieurs reprises par la France quand on avait besoin du parapluie français. Je pense à la dévaluation de 1994 qui s'est faite avec des mesures d'accompagnement plutôt fictives, puisque personne n'en a vu la couleur dans les foyers africains. Il y a ensuite eu ce recentrage de la politique française vers les zones non francophones, en direction notamment de l'Angola, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de toutes ces zones non francophones où la progression, où les points de croissance étaient plus importants que dans la zone francophone. Et donc ce sentiment d'avoir été abandonné par la France et surtout de garder une espèce de statu quo sur les revendications légitimes et profondes qui sont celles d'assurer la souveraineté et militaire et économique sont venus s'ajouter à plusieurs réclamations, revendications, et cela a débouché sur ce que la France appelle un sentiment anti-français que Francis Laloupois a défini avec beaucoup plus de justesse en parlant de compte mal soldé de la colonisation. D'accord. Donc je crois qu'aujourd'hui, la diplomatie culturelle vient en quelque sorte montrer qu'on n'a pas fermé les yeux sur les revendications légitimes, mais qu'on y va pas à pas et qu'on prend les angles les moins contestables pour avancer.
D'accord. Alors avant d'aller aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs, Aloïs, on voit donc qu'on ne veut pas d'une ingérence dans les affaires intérieure en Afrique, mais en même temps certains leaders politiques et même de la société civile demandent par exemple au président Macron de se prononcer sur les questions de gouvernance au Cameroun, au Bénin. Finalement, où se trouve l'équilibre? On ne veut pas d'ingérence, mais quand même on veut qu'on se prononce sur les questions de gouvernance. C'est pas...
Bon, je crois que beaucoup des maires ont commencé à la veille des indépendances, la France comme gendarme de l'Afrique, et l'Afrique a aussi laissé la France à jouer ce rôle des gendarmeries. Il y a lieu à ce que les Africains vraiment apprennent à se prendre en charge et à prendre à main leur propre destin, notamment des questions régaliennes telles que la sécurité. C'est inadmissible quand même qu'aujourd'hui, ce soit encore Paris qui puisse déployer ses troupes pour la protection des intérêts africains ou des territoires africains. Notez quand même qu'aujourd'hui, il y a une tranche d'âge en Afrique, 60% de sa population, c'est vraiment la jeunesse. Et cette jeunesse a du mal à digérer donc cette ingérence de la France dans leur pays, et qui souhaite vraiment un changement en profondeur des rapports de force entre les États et particulièrement entre la France et l'Afrique.
Alors, on va rapidement lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore Ndjamena nous dit, pour relancer les relations entre Paris et ses partenaires africains, l'Élysée doit changer sa stratégie qui consiste à dicter ses lois, soutenir des régimes sanguinaires, mais s'orienter plutôt vers un partenariat gagnant-gagnant. Alphonse Mbaki à Kinshasa écrit, la France devrait être plus attentive aux préoccupations des Africains, sachant qu'elle est désormais en concurrence avec de nombreux autres acteurs. Et puis, Mamadou Seck à Dakar nous dit, le président Macron vient en Afrique pour s'assurer que son pays a encore quelques inconditionnels sur le continent. La France n'a plus les pieds dans l'étrier africain puisque cette nouvelle génération d'Africains est décomplexée et rejette toutes sortes de dépendances. Voilà, vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle. Washington Forum revient après une courte pause.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanche à partir de 9h en local dans Pintio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabre pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par des jeunes journalistes sénégalais.
Seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Paris, Francis Laloupo, journaliste, auteur et chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, à Lomé, Louis Magloire Kumayou, journaliste, analyste politique également auteur, et à Goma, Aloïs Mahoua, directeur de programme à Living Peace Institute. Alors Francis, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais comment l'intérêt grandissant de la Chine et de la Russie notamment en Afrique change-t-il la donne pour la France et les Occidentaux de façon plus globale, même si Macron a reconnu que la France perdait du terrain depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais quand même, comment est-ce que tout cela peut profiter à l'Afrique, si on peut dire?
Ça fait quelques années, effectivement, que la France fait le constat de sa perte d'influence sur le continent africain, aussi la perte de ce part de marché. Mais si vous permettez, je vais revenir juste quelques secondes simplement sur le précédent chapitre, en ce qui concerne justement les relations complexes entre la France et les pays africains. Et quand on parle de pays africains, nous parlons évidemment surtout des pays francophones, bien entendu. Hein. Je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit mes co-débatteurs, notamment Louis Magloire, c'est que voilà, en conclusion, je crois qu'il faudrait surtout parvenir à une forme de révolution culturelle en réalité, des deux parties. Hein. Parce que pour transformer ces relations, il faut être deux. Il y a évidemment pour la France, nous connaissons, je dirais, toutes les pièces du dossier, hein, pour tous les procès qu'on pourrait faire à la France. Cela fait longtemps que nous avons répertorié toutes les erreurs, les maladresses, les fautes même commises par la France post-coloniale, je dirais. Mais pour l'Afrique post-coloniale également, je pense qu'il faut également savoir faire le bilan interne, je veux dire le bilan de l'Afrique par l'Afrique elle-même, sortir des contradictions africaines, mais pas d'un côté solliciter la France comme une sorte de puissance tutélaire et la rejeter quand cela ne nous convient pas. Par exemple, d'ailleurs, parmi les messages que j'avais lus des auditeurs, il y a un auditeur qui écrivait, il faut que la France prenne en compte nos préoccupations. La France n'a pas à prendre en compte les préoccupations des Africains. En fait, il faut arriver, et ça c'est une nécessité culturelle et révolutionnaire d'ailleurs, à une banalisation des relations entre la France et les pays africains. Et ça, cela peut être un projet, et je crois que le projet commun que peuvent avoir l'Afrique et la France, c'est une banalisation de la relation, les rendre ordinaires, et les décharger justement de tout ce qui peut paraître singulier ou particulier. Voilà. Donc pour revenir à la présence chinoise et russe, évidemment ce sont une présence qui change complètement la donne, puisque évidemment la question commerciale est entendue en ce qui concerne la Chine. La Chine est le premier investisseur aujourd'hui pour le continent africain. La Chine a évidemment, je veux dire, une présence extrêmement dominante sur le continent africain. Mais la Chine est en train de devenir aussi, il faut bien le souligner, le noter dès à présent, à terme la Chine sera le premier créancier aussi de la vie africaine.
Effectivement.
Voilà, nous sommes en train de fabriquer en Afrique aussi la dette du futur avec la Chine. Il faut se garder aussi à ne pas succomber, je dirais, à une nouvelle forme d'impérialisme chinois, parce qu'il n'y a pas d'impérialisme exquis. Il y a toutes les formes d'impérialisme doivent être, évidemment.
Oui, je vous promets qu'on va reparler de la question de la dette chinoise, mais Luc Mayou, comment l'Afrique peut tirer profit de tout cela?
L'Afrique a besoin aujourd'hui d'être beaucoup plus souveraine et beaucoup plus autonome dans son fonctionnement. L'intégration africaine, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui devrait marcher et qui malheureusement aujourd'hui encore traîne des pieds. Si nous continuons d'être aussi dépendants de l'international, que ce soit au niveau de l'Union africaine dont le financement provient à plus de 60% de l'Union européenne, ou au niveau de nos États qui préfèrent commercialiser majoritairement avec les grandes puissances, voire les puissances en devenir, cela ne favorisera pas l'intégration africaine. Et tant que l'Afrique agira en rang dispersé, je crois qu'elle est malheureusement condamnée à rester esclave de ces relations, des différents sommets bilatéraux entre l'Afrique et la Turquie.
Et il y a la ZLECA qui est là, mais qui traîne un peu le marché commun africain.
Non, mais on ne crée un marché que quand il y a des choses à vendre et des choses à acheter. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de choses à proposer sur le marché africain. La plupart des produits qui sont vendus ne sont vendus à l'état brut, ils sont vendus aux anciennes puissances coloniales, ils sont vendus à l'international, et les prix ne sont même pas fixés par les Africains. Quand vous imaginez qu'en vendant une tonne de café, un paysan africain n'est pas capable de s'acheter lui-même 500 grammes de café, on sent quand même qu'il y a une forme d'inégalité dans les riches points, qui ne devrait pas se prolonger. Quand nous avons du blé qui peut être cultivé dans l'est de l'Afrique et que nous préférons l'acheter en Ukraine, en Russie ou en France, c'est qu'il y a des problèmes. Et je crois que c'est à partir de là qu'on règle le problème. Il faut être autosuffisant, souverain et arriver à créer un marché intérieur et surtout une coopération intra-africaine où on est au-delà des 15% actuels pour se rapprocher des 60% qui est la moyenne un peu partout ailleurs dans le monde.
D'accord. Alors Aloïse, vous aurez certainement le dernier mot sur cette question de comment l'Afrique peut tirer profit de cette compétition entre puissances étrangères.
Ce qui est tout d'abord, ce qui est évident, c'est que le monde bouge avec l'arrivée sur la scène internationale de la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, qui sont en réalité en compétition avec les blocs occidentaux. Et de cette compétition, on voit de plus en plus l'Afrique courtisée à travers ces différentes puissances, les différents sommets qui s'organisent ici et là, Chine, Afrique, Afrique, chaque puissance a son sommet. Mais ce qui est quand même triste, on a l'impression qu'il serait vraiment triste que les ressources humaines africaines, les ressources énergétiques de l'Afrique soient au service de ces puissances avant d'améliorer le niveau de vie des populations africaines. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, l'Europe pense qu'elle peut compenser ses pertes énergétiques avec une partie des ressources africaines. laquelle Afrique a vraiment
c'est une bonne guerre. C'est peut-être à l'Afrique de poser ses conditions, n'est-ce pas? En tout cas, merci. Malheureusement, on me fait signe que nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je vous promets qu'on reviendra sur cette question de ce Washington Forum. Je remercie énormément nos télépartenaires sur le continent, également vous qui nous suivez sur ces télépartenaires, également sur voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanche, à partir de 9h, hors local, dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabre pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre